à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, l'équipe est en pleine forme aujourd'hui.
Ah oui.
Comment ça va, Mehdi?
Ça va. Regarde, j'ai un peu la voix un peu éraillée. Non, je suis pas malade, tout va bien. Mais on a la forme, un programme un peu particulier cette semaine quand même. Parce que ça va être une émission avec deux avis d'experts. Experts avec un H, alors faut avoir la ref, hein. Salut à la team Trash Talk. Nous allons donc parler de deux jeux occidentaux, deux RPG et pas des moindres, hein, parce qu'ils ont respectivement trusté l'actualité des mois d'août et septembre. Je veux bien sûr parler de Baldur's Gate 3 et Starfield. Vous retrouverez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur deux événements qui n'ont pas encore eu lieu pour nous, mais qui ont eu lieu pour vous. Vous avez vu le Nintendo Direct à 16h jeudi et le State of Play à 23h jeudi aussi, mais nous sommes jeudi matin.
Tout à fait.
On sait pas ce qui s'est passé, mais toi Nico, je vais te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors moi j'ai adoré, surtout le début des deux. Non mais oui, on a aucune chance de pouvoir rattraper ça demain avec une petite capsule dont on a le secret. Donc vous serez au courant avant nous, donc on espère que c'était cool.
F-Zero?
J'ai adoré le F-Zero.
F-Zero, c'était cool?
Ouais. Le nouvel F-Zero.
Le Donkey Kong exploration 3D, un peu vibe 64, mais avec une belle technicité façon Mario. Mario Sunshine, Mario Odyssey. Celui-là, vraiment, j'ai hâte. En plus, déjà, il sort à Noël.
Et oui, et il est gratuit en plus.
Qui l'a cru? Il est gratuit. Rien à voir. On commence direct avec Baldur's Gate 3, une chronique que vous nous avez pas mal demandé. C'est la première fois qu'on nous demande autant une chronique, et même on nous demande de jouer au jeu. S'il vous plaît, jouez à Baldur's.
Essayez-le, jouez à votre jeu. C'est vrai que la semaine dernière, on a commencé avec deux outsiders un peu indés. Là, aujourd'hui, c'est l'émission SEO, voilà, pour faire des stats.
Ouais, mais Baldur's Gate, vous allez voir, et Starfield aussi, peut-être pas forcément 100% notre cam. Alors aujourd'hui, désolé, je vais pas vous proposer une critique, hein, mais je vais plutôt essayer de mettre en parallèle Baldur's Gate 3 et les JRPG, et donc voir quels sont les éléments que Baldur's Gate 3 nous offre, mais qu'un JRPG ne nous propose pas. Alors mon expérience perso avec les jeux de rôle de ce style, hein, on va dire que j'ai fait un Baldur's Gate, moi. J'ai fait le Dark Alliance 2, là, le Beat'em All sur PS2. J'ai fait quelques parties de jeux de rôle, hein, dans ma jeunesse, effectivement. J'ai joué à HeroQuest, donc qui était un jeu de rôle sur table, avec un petit peu des éléments, avec des petites figurines, tout ça. C'est un jeu de 1989.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu connais pas HeroQuest?
Non, HeroQuest.
C'est revenu là, il y a la mode des JDR en ce moment, et c'est revenu en 2022 avec une nouvelle version de HeroQuest. Tu connais pas, ce barbare là qui est comme ça? Waouh! Non, je te montrerai.
Ah, tu m'avais montré, je crois déjà. Oui, ça me dit quelque chose.
Ça, j'ai beaucoup joué. J'ai fait 3-4 ans, j'ai beaucoup joué avec mon fameux voisin qui m'a initié aux jeux de rôle japonais, mais aussi aux jeux de rôle occidentaux. Et j'ai joué à Baldur's Gate 3 une dizaine d'heures. Alors, c'est rien, je sais, mais en réalité, il faut combien d'heures pour tester le jeu? C'est un jeu qui est si vaste, si riche, que c'est à se demander si c'est un jeu qu'on peut vraiment tester. Alors, vous pourriez me dire qu'on s'en fiche un peu, hein, si le jeu il est testable ou pas. Mais on s'en fiche pas vraiment parce que ce point, il est très révélateur de ce qu'est Baldur's Gate 3. Alors c'est une évidence, il est largement inspiré des jeux de rôle papier et sur table. Et ça, quand tu joues un JDR papier ou sur table, ça va vachement dépendre de la qualité de ta soirée, tu vois. Si tu passes un jeu de rôle avec des bons amis, avec un maître des jeux, avec des pizzas sympas, ça tu vas pouvoir te dire, ok, c'était une bonne soirée. Mais en fait, que ça soit une soirée bien ou pas bien, ça va dépendre de ton contexte. Et Baldur's Gate 3, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est un cadre et qui a un début, une fin, mais au milieu, c'est assez libre. Baldur's Gate 3, c'est une expérience et même plusieurs expériences. C'est plus qu'un jeu, c'est une boîte de JDR. Et ça, c'est la première différence avec un JRPG. Notre expérience dans un jeu de rôle japonais, elle reste la même. Elle reste plus ou moins la même entre deux parties et même entre deux joueurs. Alors que dans Baldur's Gate 3, autant vous dire que d'une partie à l'autre, ça semble radicalement différent. Et même entre deux joueurs, ça sera radicalement différent. On va parler à présent des systèmes. Une chose importante à savoir, c'est que Baldur's Gate 3, c'est un jeu qui est systémique. Alors un jeu systémique, c'est un jeu dans lequel plusieurs systèmes coexistent et surtout se répondent. Un exemple simple, classique. Dans le jeu, tu sais que si tu mets le feu à de l'huile, ça brûle, et si tu vas électrifier de l'eau, ça fait mal. Ça, c'est qu'une première couche, c'est la plus évidente, mais c'est un peu pour vous donner le délire. Mais c'est pas tout. En plus des systèmes, Baldur's Gate 3, je vais arrêter de le dire parce que c'est assez chaud, possède des règles de jeu qui sont denses, complexes, et même insoupçonnées, dans le sens où il y a des règles partout, pour tout, et tout le temps. Même quand on pense qu'il n'y a pas de règles, il y en a. Et cette compréhension des règles, elle va te demander un investissement de départ quand tu lances le jeu qui est absolument énorme. Et pour apprendre comment fonctionne Baldur's Gate 3, il y a plusieurs solutions. Tu peux lire les règles, parler à des connaisseurs, regarder des vidéos de connaisseurs où tu peux apprendre dans le jeu. Et ça, tu vas le faire en observant, en retenant en quoi ben, tes actes vont avoir des conséquences. Et en fait, ben, le jeu, il n'explique pas tout. Mais à sa façon, il va essayer de te donner des réponses. Alors au début, il va t'assommer de tutos, hein, mais tout n'est pas expliqué dans les tutos. Et ce qui est le plus amusant, le plus enrichissant et aussi le plus compliqué, ben, c'est d'apprendre de façon empirique, en expérimentant. Et de cette manière, ben, tu vas découvrir les règles, en les comprendre et les retenir. Mais c'est aussi le risque de passer à côté de nombreuses choses. Et ça, c'est un sentiment, un petit peu le FOMO, comme on dit, qui va un petit peu émailler toute l'expérience de Baldur's Gate 3. Tu sais jamais si t'as, si t'as raté des trucs de ouf.
Ouais, mais là, faut l'accepter, sinon tu t'en sors pas avec ce jeu, je pense.
C'est clair. Après, faut pas en vouloir au jeu. Il peut pas tout expliquer, c'est pas possible. D'un, parce que les règles de Donjons et Dragons sont trop riches. Et de deux, parce que c'est un jeu systémique, ce qui veut dire que le monde du jeu est logique. Donc, comprendre comment fonctionne le monde est plus important que de comprendre les règles. Et de ce fait, le jeu, ça c'est trop cool, il y a plein de surprises. On réalise petit à petit le nombre absolument incroyable de possibilités. Tu réalises que tu peux utiliser par exemple tes pouvoirs tout le temps, pas uniquement en combat, hein, ce qui est dans les JRPG classiques, tu peux utiliser ton feu niveau 2, ton feu plus que pendant les combats. Là non, les pouvoirs, tous, tu peux les utiliser hors combat tout le temps, il faut que tu testes. Tu réalises que tu peux jouer comme un bourrin, ou tu peux jouer infiltration, en fait. Le jeu, il a pas une philosophie. T'as pas, dans les JRPG, tu vas avoir une certaine façon de jouer. Tu sais que t'as les combats là, l'exploration ailleurs. Là, non. Tu peux jouer bourrin, tu peux jouer infiltration. Tu réalises que tu peux utiliser les objets de façon complètement diverse, variée. C'est à toi de tester. L'exemple très connu, là, pour le coup, il y aura zéro spoil parce que c'est un petit peu la tarte à la crème aussi. C'est cette fameuse fiole de vie. Fiole de vie dans Baldur's Gate 3, tu peux la prendre, tu regagnes de la vie, tu peux la jeter sur un ami, il va regagner de la vie, mais il va perdre aussi un point de vie parce qu'il a pris une fiole dans la gueule. Et la fiole de vie, tu peux la verser au sol, enfin, la casser au sol et faire passer différents personnages sur l'air de la fiole de vie et chacun vont regagner de la vie. Donc, c'est ça le systémique, en fait. C'est que chaque chose a une règle et en fait va se répondre. Dans un JRPG, les règles peuvent être aussi riches, complexes, mais elles sont toujours très encadrées. Dans un JRPG, au cours des premières heures, le but, ça va même être de découvrir ce qui est interactif et ce qui ne l'est pas. De comprendre en quoi et avec quoi on peut interagir. Est-ce que les trésors, ils sont dans des trésors? Ou est-ce qu'ils sont dans des tonneaux? Est-ce que tu dois examiner les tableaux? Je sais pas. Est-ce que tu peux couper les hautes herbes? Ou est-ce que tu dois fouiller les jarres? Ça, c'est le début des JRPG. Tu vas un petit peu tâtonner, tu te dis avec quoi je peux interagir? Et une fois ces questionnements résolus, c'est bon. T'as un contrat tacite qui est passé entre le joueur et le jeu. Et là, je me suis raté ma feuille, tu vois. Et donc, les termes de ce contrat, ils bougeront plus. Dans Baldur's Gate 3, ça se passe pas du tout comme ça. Le nombre de possibilités, il semble infini. Le nombre de règles est énorme. Mais surtout, chacune de ces règles possède des exceptions. Ce que tu as appris de façon empirique n'est en réalité pas une vérité. Et le contrat tacite avec le jeu, il est brisé. Car les termes du contrat, ils sont sans cesse en évolution. Et je dis ça comme c'était un reproche, mais pas du tout. En fait, c'est une bonne chose parce que ça va te surprendre. On est radicalement à l'opposé d'un JRPG.
Ça me rappelle les maths au lycée, ça.
est-ce que là, pour le coup, c'est une bonne chose? Je sais pas. Et quand je parle de règles, c'est pas tout. Et là, tu m'as parlé des maths. Il y a un nombre de variables qui est aussi complètement dingue. Alors, je prends un exemple simple aussi. Faire un saut, sauter. Dans un JRPG, tu sais de base si tu peux sauter ou pas, et c'est loin d'être obligatoire. Et même si tu es un être divin qui peut se transformer en ifrit, dans un JRPG, un petit trou dans un pont peut te stopper. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est une règle tacite entre le jeu et le joueur. Dans Baldur's Gate 3, la simple possibilité de faire un saut peut être octroyée par la classe du personnage, par un pouvoir. Tu peux aussi avoir la capacité de te rapetisser et de te faire jeter par un barbare pour sauter. Et c'est pas tout. La hauteur du saut peut changer en fonction de tes stats, de ton niveau, de l'équipement et de la force du barbare qui va te jeter. Donc, tu vois le nombre de possibilités, mais le nombre de variables aussi.
Ouais, je suis fatigué déjà.
En fait, ce qui m'a vraiment troublé dans Baldur's Gate 3, c'est que je connaissais pas la portée de mes actions, sur rien. Que ça soit pendant l'exploration, pendant les combats ou même pendant les dialogues. Je savais pas ce que je pouvais faire ou pas faire, dans quelle mesure et dans quelle proportion. Dans un JRPG, tu sais tout ça. Tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire et tu sais avec quoi tu peux interagir. Et en plus de ça, dans un JRPG, c'est super simple de reconnaître les différentes séquences de jeu. L'exploration, les combats, les dialogues, tout est bien cloisonné. Et le plus souvent, ces séquences, dans un JRPG, elles sont pas poreuses, elles sont pas interconnectées. Dans Baldur's Gate 3, tout est lié, tout est interconnecté, et nos choix auront une influence sur toutes les séquences de jeu, et même, à ce qui paraît, sur tout le jeu. Un exemple encore très simple, dans un JRPG, bah, tu reconnais facilement une séquence de combat. Tu reconnais même ce qui va la déclencher, la séquence de combat. Tu te téléportes sur l'aire de combat, en tour par tour ou pas, tu fais face à tes ennemis, tout est bien à sa place, tu connais. Dans Baldur's Gate 3, putain, c'est dur, hein, Baldur's Gate 3, bah, tu peux même esquiver les combats. Tu peux aussi choisir d'éclater ton groupe. Tu vas cacher un de tes personnages dans un tonneau, tu vas attendre que le bon moment pour taper en backstab un ennemi. Tu peux aussi te déguiser, jouer en espionnage. Tu peux placer des persos en amont du combat en hauteur pour avoir un avantage, clairement, sur les stats. Tu peux tuer un PNJ important dans le combat en scred avant pour faciliter justement son combat. Ou même, tu peux te débrouiller pour annuler le combat. Tu peux convaincre ton ennemi de pas combattre. Tu peux même l'enrôler et en faire un compagnon. Et dans tout ce listing de possibles, on voit bien que les séquences d'exploration, de dialogue et de combat sont complètement entremêlées. Dans un JRPG genre SMT, Shin Megami Tensei, tu sais que tu peux négocier avec les ennemis et les recruter, mais bon, c'est le bout du monde. Hein. Une séquence de combat avec des dialogues, wow, c'est
oui,
le bout. Et
puis SMT, on sait que c'est pas le prototype du JRPG le plus accessible ou le plus répandu. Quoi.
Mais surtout, bah, tu vois que tout est dans un cadre qui est reconnaissable et limpide. Donc tu vois un petit peu les possibilités, tout ça.
Mais c'est intéressant, parce que je pense ça en dit aussi sur les caractères des gens, quoi, sur ce côté où, comme tu dis, le JRPG, tu sais dans quoi tu t'engages, t'as les deux mains sur le volant, et tu sais que presque tu t'attends qu'on te raconte une histoire, là où
exactement.
Les jeux de rôle occidentaux et Baldur's Gate en particulier, c'est vraiment, tu lâches le volant, tu fais vas-y, surprends-moi. Quoi.
Où est le mur que je le prenne. On va parler des combats. Alors dans Baldur 3, bah, les combats ils se déroulent au tour par tour, mais de ce que j'ai vu, ils sont quand même... Alors voilà, j'ai dû jouer une dizaine d'heures, je les trouve un petit peu lents, un petit peu compliqués, je les trouve aussi assez punitifs. Les menus, ils sont très riches, à base d'onglets, de sous-onglets, de petites icônes dans des petits carrés. C'est pas impressionnant du tout, mais après, ça peut être très stimulant. Je sais qu'il y a des fans de Baldur, hein, vous inquiétez pas, je comprends que ça soit très stimulant, très engageant, très... voilà, tu as plein de possibilités, intellectuellement c'est fou, t'as des possibles de ouf, mais on est à l'inverse des JRPG qui sont... souvent les combats rapides, dynamiques, beaux, impressionnants. Dans un JRPG, les options, elles sont faibles, en tout cas en comparaison avec Baldur 3, mais surtout les possibilités, elles sont claires, et ça grâce à des menus très simples et limpides. Hein. Tu sais que tu peux utiliser des objets, faire une super attaque, ou attaquer facilement. On est quand même dans un radical opposé. Quoi.
Mais c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu de Baldur 3, et c'est ça qui m'impressionne un peu et qui fait que je me suis pas vraiment trop lancé, c'est que dès le début, dans le combat, on a l'impression qu'on te donne 50 possibilités. Quoi. Où nous, habituellement, alors c'est peut-être le fait qu'on est joueur plus console et tout, c'est qu'on va, tu vas voir ton système s'étoffer, s'agrandir avec et gagner en complexité avec les heures de jeu. Mais souvent, les JRPG, t'as juste l'option attaque au début, tu donnes un coup d'épée, l'ennemi meurt direct parce que c'est des ennemis faciles au début. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on me donne un éventail qui est tellement impressionnant et tellement vaste que waouh, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, quoi.
C'est ça. En fait, si tu comprends, comme je disais, pas forcément les règles, mais le monde, tu vas comprendre que dès le début, dès ce fameux bateau chelou à l'amorce de Baldur's Gate 3, tu peux, pourquoi pas, voler une arme qui n'était pas censée voler, la récupérer de diverses façons et complètement transformer ta partie. Ça, c'est quelque chose qui se fait absolument pas dans un JRPG, là où tu vas gagner en possibilité, en évolution, avec le temps, de façon très contrôlée.
Au moment où c'est voulu par les devs, ouais. Oui.
Alors, en ce qui concerne le scénario, le truc que je retiens, c'est que dans Baldur 3, faire des choix a un poids et engendre des conséquences. On le remarque pas tout de suite, mais quand tu t'en prends conscience, c'est vraiment un espèce de vertige ouf, complètement impressionnant. Tu sais jamais ce que tu gagnes et ce que tu perds quand tu fais un choix. Et comme on dit, hein, l'expression « choisir, c'est renoncer », ici, ça prend vraiment tout son sens. En fait, le scénario est lui aussi un petit peu en mode systémique. L'histoire, elle est régie par des règles logiques et malléables, et c'est à nous de faire notre tambouille avec tout ça. On peut choisir, par exemple, de créer son avatar, ou choisir un perso majeur hein, qui est imaginé par les devs. Et que ce soit l'une ou l'autre des options, le jeu il va s'adapter. Imaginez qu'on puisse choisir dans FF7 de faire son propre perso ou de prendre Cloud, et dans les deux cas, le jeu s'adapte et ça reste génial. Mais tu peux aussi choisir, imaginez dans ce FF7 rêvé, de tuer Cloud, et le jeu s'adapte aussi. Dans Baldur's Gate, tu peux aussi choisir, ou justement pas choisir, mais tu peux rater des persos majeurs, vraiment complètement incroyables. Et le jeu s'adapte. Imaginez ce FF7, tu rates Cloud, tu le vois pas, et le jeu s'adapte. C'est, tu vois là, le vertige qu'il y a, c'est impressionnant, le travail derrière d'écriture et de possible, c'est vraiment Vraiment, c'est, j'ai du mal, moi, encore, à l'assimiler, ça. Ça, ce que je viens de raconter, c'est impossible dans un JRPG, car, comme on l'a dit dans un précédent Red Alert, un JRPG, c'est un roman dans lequel tu suis les aventures de personnages déjà écrits. Et notre influence en tant que joueur, bah, elle est vraiment minime en réalité. Ce qui est littéralement, mais littéralement, l'inverse de Baldur 3, où là, t'es complètement libre de tout.
Oui, puis c'est vrai qu'on l'a vu dans FF7, où t'as deux persos que tu peux louper, mais dont le rôle se limitera à avoir une bulle de dialogue pour commenter chaque événement qui se passe de manière pas très intéressante, voire une quête dédiée, mais pas plus, quoi.
Ouais. Et c'est marrant, ça a un rapport à ce que je te racontais. Tout à l'heure, j'ai évoqué, tu sais, la possibilité de recruter un ennemi, mais dans Baldur 3, tu peux aussi recruter des persos qui semblent un petit peu moins importants. Et ça, c'est quelque chose que tu peux, j'ai pas envisagé au début, mais qui est radicalement différent du JRPG, où les persos qui ont de l'importance, mais ils sont tellement flag, tu les vois, à l'époque de la 2D, ils avaient des portraits, alors que tous les PNJ n'ont pas de portraits, mais c'est aussi réel bah, plus récemment, avec des jeux en 3D comme FF16, où tu vois que le personnage que tu vois, il est super bien modélisé, t'as Joe le PNJ à côté, enfin, c'est flagrant. Là, dans Baldur's Gate, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu sais jamais si ce personnage c'est un ennemi, il peut venir avec toi, est-ce que lui c'est vraiment un paysan et tu t'en fiches. C'est là où en fait les portes s'ouvrent et du coup c'est ce vertige, tu sais pas ce qu'il en est. Alors en conclusion, bah, je dirais que Baldur 3, bah, c'est pas un CRPG, c'est une adaptation d'un jeu de rôle, c'est une adaptation d'un média différent, comme quand on adapte un film en jeu vidéo ou une BD en jeu vidéo. Ici, c'est un jeu de rôle en jeu vidéo. On retrouve plusieurs éléments clés du JDR. Bah, y a un maître des jeux, qui sont en fait les devs, mais ils jouent en asymétrique. Donc, ils ont joué, eux, pendant 6 ans, et maintenant, ils nous regardent, mais c'est vraiment des maîtres des jeux. Il y a la création de son perso, qui, comme dans la réalité, dans les JDR, vont prendre 10 ans, hein. Ça dure souvent une après-midi, et puis personne n'a commencé sa partie, parce que, voilà, la création de son perso, bah, dans Baldur 3, c'est aussi très important. Dans Baldur 3, il y a des points d'inspiration. Bah, en fait, ces points d'inspiration, c'est ce qui va te permettre de faire des jets de dés, de refaire des jets de dés ratés. Et ces points, en fait, tu vas les gagner quand tu joues roleplay. Alors, ça veut dire quoi jouer roleplay dans un RPG? Ça veut dire que dans Baldur 3, tu vas gagner ces points quand tu vas prendre des décisions et agir en accord avec ton perso, avec sa classe, avec son caractère et avec son passé. Quand tu vas dans le sens de ton perso que tu as créé ou que tu as choisi, bah, là, tu vas gagner ces points d'inspiration. Et ça, c'est quelque chose qui est hérité du JDR. Imaginez FF10, tu gagnes des bonus quand tu joues comme Tidus, comme devrait être Tidus. Ça, franchement, personne se pose la question. Tu t'en fous complet. Dernier truc, si je dis que Baldur 3, bah, c'est plus un jeu de rôle papier qu'un CRPG, bah, c'est parce que dans un jeu vidéo, habituellement, on va masquer au maximum tout l'héritage de ces jeux de rôle. Et en premier lieu, bah, les G2D, c'est l'exemple le plus flagrant. Habituellement, que ça soit un CRPG ou un JRPG, ces G2D existent, mais ils sont masqués. Dans un JRPG, bah, quand tu fais un coup critique, par exemple, bah, c'est un jet de dés, mais tu le vois pas. Alors que là, dans Baldur 3, bah, on ne voit que ça. Les jets de dés, ils sont partout, ils régissent tout, bah, comme dans un vrai jeu de rôle. Et c'est une réalité qu'on peut peut-être oublier, mais les règles de Donjons et Dragons, bah, c'est la base des règles des RPG, mais qu'ils soient occidentaux ou japonais. Ultima, Wizardry, Dragon Quest, Final Fantasy, c'est du Donjons et Dragons derrière. Mais comme je disais, la volonté a souvent été de masquer ces règles, alors que Baldur 3 va les exposer. Alors tout ce que j'ai raconté, je pense que ça peut faire peur, ça peut décourager, et c'est ce qui m'est arrivé. Franchement, je vous le dis, je vais pas retoucher à Baldur 3. Et c'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est juste que c'est pas ma cam en termes de direction artistique, d'histoire, c'est un tout en fait. Mais je conçois que c'est une sorte de rêve éveillé, hein, que c'est un fantasme de ouf, hein, qui devient une réalité, un jeu dans lequel tu peux absolument tout faire, tout imaginer. Mais moi, j'étais perdu. Je savais pas ce que je pouvais faire, pas faire. J'y jouais comme un GTA, en fait. Je faisais n'importe quoi, je testais. Je me suis tapé un ours, j'ai tué des enfants, je faisais tout sauf du roleplay. Mais clairement, j'ai pas accroché, mais je pense que c'est ma faute. J'étais dans la découverte, l'exploration des possibles, comme quand vous jouez à votre GTA et que vous êtes perdu parce que vous vous dites, bah, est-ce que je vais suivre ma quête principale ou, tiens, c'est la première fois que on me donne la possibilité de voler une voiture, tuer des passants, et tu te laisses emporter par, en fait, c'est envisager de faire tout et n'importe quoi.
L'engrenage du crime.
L'engrenage du crime. Bon, néanmoins, je pense que Baldur 3 reste une superbe porte d'entrée. Alors, je vous ai parlé au tout début de HeroQuest, en début de ma chronique. Bah, HeroQuest, c'est une super base, une super initiation parce qu'il y a un plateau. Il y a des figurines, des choses qui vont aider à se figurer l'aventure. En fait, HeroQuest, c'est un cadre pour des règles, mais c'est aussi un tremplin pour notre imagination. Et je trouve que Baldur 3, bah, s'en rapproche dans la démarche. C'est un cadre, une initiation. C'est une porte d'entrée qui va nous aider à imaginer ce qui se déroule habituellement uniquement dans notre tête, mais dans les vrais jeux de rôle. Mais c'est pas pour moi. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi à accrocher.
Ouais, mais ça donne envie. Hein. C'est vrai que ça demande, je pense, une implication. En tout cas, pour un public comme nous, qui est complètement néophyte de ce genre de choses. J'ai une question ultra pragmatique, mais est-ce qu'à la manette, du coup, ça se joue bien? Parce que j'ai vu que ça a l'air complexe et évidemment, le support privilégié est souvent le PC pour ce genre de jeu.
Ouais, tu fais bien de le préciser. J'ai joué sur PS5 et c'était plutôt fluide, plutôt agréable. C'est pas dans... J'étais un mot que j'ai répété, j'étais perdu, les possibles, tout ça. C'est pas l'adaptation ou le gameplay manette qui m'a perdu. Okay. Ça, vraiment, ils ont fait des efforts. Mais il y a plein de choses que j'ai absolument pas évoquées. Par exemple, le fait que tu peux jouer en coop, le fait que tu peux jouer à plusieurs, que, par exemple, tu vas jouer roleplay, c'est-à-dire que tu peux choisir de ne pas voir les réponses de ton collègue qui va peut-être dire n'importe quoi et tu vas devoir jouer avec les conséquences de ce que va dire ton pote.
C'est vrai que la coop, ça peut peut-être être un pied à l'étrier pour se faire violent sur le fait d'être deux, de partager une expérience et d'en parler, ça peut peut-être aider à...
Ça, l'Ariane, ils avaient vachement exploré ça avec Divinity Original Sin, où tu pouvais déjà jouer à deux, où tu avais vraiment de nombreuses fonctions de dialogue, où tu pouvais parler avec les animaux. Évidemment que tu peux parler avec les animaux dans Baldur 3. C'est qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans Baldur 3. En tout cas, voilà, je comprends, malgré le fait que ça soit un jeu qui est très radical, très exigeant, je comprends à quel... Pourquoi il a engendré autant de passion? Pourquoi il fonctionne? Pourquoi il se vend? Et c'est vachement bien, parce que du coup, ça prouve que être radical, ça fonctionne aussi, et ça peut un petit peu engager même le grand public.
Ouais, et c'est intéressant, t'as un risque dans Starfield, on va aller sur un peu sur certaines problématiques du genre, et ça sera assez cool justement d'avoir un petit topo sur Baldur avant. Hein.
Ouais, on a parlé rapidement des menus, des interfaces, et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de l'interlude. Top 3 de cette semaine, interlude qui nous a été proposé par deux personnes. Donc, on remercie Seto et John Plastek, incroyable blaze, donc qui nous ont tous les deux proposé ce top 3 des interfaces et menus. On va peut-être commencer par des mentions. En tout cas, parce que c'est pas partagé.
Ouais, notre top 3. On a pas fait dans l'originalité. Donc.
Mais c'est sûrement des jeux qui nous plaisent, qui nous touchent, mais qui ont une interface et un HUD qui sont vraiment stylés. Mais voilà, deux mentions. Peut-être un petit peu plus original, un petit peu plus funky.
Ouais, alors moi je voulais parler de No More Heroes 3 et même No More Heroes en particulier. C'est vrai que de toute façon les jeux Soudan ont fait des efforts de ouf sur l'interface, sur les menus avec ce mélange très pop, très pixel aussi un peu rétro gaming. Et No More Heroes 3 c'est vraiment remarquable parce que c'est tu vois les touches de DA et la qualité de la DA. Et c'est vrai quand tu vois à côté le reste du jeu qui est techniquement un petit peu éclataxe, tu comprends que c'est vraiment t'as la différence entre question de moyens techniques et quand même la touche artistique. Ouais. Et je pense ceux qui ont joué à No More Heroes 3, vous voyez de quoi on parle quoi.
Ouais, moi ma mention ça sera Colin McRae 2.0 qu'on a évoqué juste avant pour le petit café avant l'enregistrement du Red Alert. Une interface qui était vraiment ultra stylée, très sobre et qui pourrait totalement fonctionner alors que le jeu a plus de 20 ans, ou en tout cas bientôt 20 ans, incroyable. Donc voilà, ça c'est les deux mentions, on est dans l'originalité, on est dans le pointu.
Voilà, là on arrête.
On arrête. Et maintenant on va balancer ce qui est l'évidence, mais ce qui est l'évidence c'est aussi des bonnes interfaces et des bons HUD. Je te laisse commencer avec ton top 3.
Parlons d'évidence avec Dead Space évidemment, peut-être que tu l'auras, je ne sais pas.
Ouais, c'est possible.
Bah Dead Space, on en a parlé pour son interface et ses menus qui étaient diégétiques, c'est-à-dire intégrés dans le cadre du jeu et qui étaient même visibles par le perso. Donc ça peut être la barre de vie qui est sur son armure derrière sa colonne vertébrale, ça peut être les menus qui c'est un projecteur qui affiche ça devant le perso.
Les munitions, c'est vrai que quand tu mets en joue, tu vois le nom
directement. Et c'est vrai que même le Callisto Protocol, qui est l'héritier de Dead Space, dont on a parlé en fin d'année dernière et qui est pas ouf, il a fait justement de cette reprise de l'interface comme ça, l'un des facteurs qui fait que ça évoque Dead Space.
Ouais, c'est marrant parce que Callisto Protocol se l'est réapproprié, mais c'est un enfant direct, en moins bien. Mais tu vois, Dead Space et cette interface, ça a été une révolution, vraiment. Ouais. Et ça a pas fait tant école que ça, parce que c'est dur.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des jeux qui sont un peu dans le sens, par exemple, je crois le King Kong de Michel Ancel, où t'appuies sur un bouton, et le perso disait à haute voix quand il lui restait de balles, donc c'était une manière détournée de jouer là-dessus. Mais c'est vrai que ça a pas tant fait école que ça, finalement, quoi.
Alors, pour ma part, Dead Space est dans mon top, mais pas en troisième position. En troisième position, j'ai Metroid Prime, moi. Je sais pas si tu l'as, mais on est sur quelque chose là qui est aussi dans l'évidence, dans le sens où on est dans le casque de Samus en vue subjective et le HUD va reprendre ce que voit le personnage principal. Ça, on aurait pu citer Halo, on aurait pu citer les deux derniers Doom, qui vont reprendre à leur compte aussi ce HUD qui est en fait la vision de ce que voit le héros, qui est super efficace et qui est raccord, fond et forme, toujours pareil.
Ouais, et puis Metroid problème a quand même l'antériorité là-dessus, et on a tous été ébahis quand on a tiré près d'un mur et qu'on a vu le reflet des yeux de Samus à l'écran s'afficher et tout. Enfin, il y avait l'histoire aussi des différents viseurs, en fait, qui étaient donc des visions infrarouges, machin, etc., que tu pouvais switcher. Enfin, c'est un des premiers exemples aussi forts d'avoir vraiment ce truc qui te place dans la peau du personnage.
Je te tiens à cœur ce Metroid Prime. Est-ce que tu l'as dans ton top?
Oui.
Ah, peut-être, mais pas en deuxième.
Je l'ai en premier.
Dommage. Je veux dire, ça aurait pu être une belle transition. Je te laisse faire ton second.
Ouais, voilà. Donc, mon second, moi, c'est Assassin's Creed.
Ah non, je l'ai pas.
Ah, bon, écoute. Bon, alors, on peut penser ce qu'on veut de la DA, mais dès le début, l'interface avait interpellé, justement, avec ce côté. Tu jouais un jeu qui se passait au temps des croisades, et t'avais cette interface très moderne, très, un peu à la mode scientifique et tout. Et parce que là, voilà, encore une fois, fond et forme se regroupent, c'est que tu joues un perso qui est dans une machine qui lui fait revivre des souvenirs. Et là, voilà, je trouve que l'interface traduisait très bien ce truc-là, et même tout ce que le jeu a fait, c'est-à-dire que les murs invisibles, en fait, c'était des limites imposées par l'animus, parce qu'il disait tu sors de la zone concernée. Enfin, ils ont travaillé toutes les contraintes habituelles de jeux vidéo pour en faire des éléments de l'histoire, et que c'était plutôt bien pensé.
Ouais. Donc cet anachronisme qu'on avait d'être dans le passé avec une interface moderne, et même la communication en jouet, où les premiers trailers d'Assassin's Creed envoyaient des glitches qui avaient absolument rien à voir avec la troisième croisade, et tout ça était vraiment très intriguant. Et Assassin's Creed, le premier du nom, j'aurais pu le citer, mais c'est quelque chose qui a été continue. Hein.
Oui, bien sûr. Et la barre de vie, ils appelaient ça les points de synchronicité, je sais plus.
Synchronisation. Ouais. Mon top 2, je vais aller très vite, c'est Dead Space. Donc voilà, on en a parlé déjà. Donc je te donne la patate pour ton top 1 qui est...
Je comprends pourquoi Ken se marrait quand il a vu nos deux tops. Du coup, ben mon top 1, c'est Metroid Prime.
Oh, ouais, génial. Il marche bien. Hein. Mais bon, du coup, on repasse à moi pour mon top 1. Ça peut pas être toi. Moi, c'est Persona 5 qui reste quand même le top de l'originalité.
Oui, après, il y a des évidences et c'est pas pour autant qu'il faut pas citer les évidences.
Alors, évidemment, il a fait école. Vraiment, tout le monde a essayé un petit peu de le pomper. Donc, ce HUD complètement dynamique, très pop, très BD, avec tu naviguais dans le menu et t'avais les cases qui s'adaptaient avec justement ces gros menus très très imposants et qui étaient repris dans les menus quand t'appuies sur Start, mais qui étaient repris aussi en combat. Et ce qui est intéressant, alors je sais pas si c'est du menu HUD, est-ce qu'on peut l'intégrer, mais t'avais aussi ce contre-plongé dans Persona 5, tu voyais la caméra qui était un petit peu désaxée, qui était très originale pour du JRPG, du tour par tour, et eux aussi vont le reprendre, donc c'est pour ça que je cite Refantasio, le prochain jeu de la team, qui a déjà dévoilé un premier trailer avec un petit peu de gameplay, et on a un HUD menu qui est complètement dans la veine, qui est trop beau, presque, est-ce que c'est pas si peu original, tu vois,
mais même dans le remake de Persona 3 dont on a perçu des choses. Alors Persona 3, 4, 5 avaient déjà, même 3 et 4 avaient déjà leur côté DA marqué, interface stylée,
avec leur couleur,
mais voilà, le remake de Persona 3, on voit qu'il s'inspire à posteriori de ce qui a été fait dans Persona 5. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce jeu, c'est ce fameux écran de fin que t'as dans les combats, dans les JRPG, où on te récapitule tes bonus que tu gagnes et tout, et là ils en avaient fait un effet de transition où les persos sortent du combat en courant et quand ça se termine, ils arrivent dans la zone d'exploration. Alors c'est pas seamless parce que c'est un temps de chargement camouflé, mais je trouvais ça super canon, quoi.
Ouais, mais c'était une sorte de mise en scène, en fait. C'est super bien mis en scène et tout, c'était vraiment canon. Un top 3 des interfaces et des menus, voilà, classique pour
classique,
nous, mais des jeux du cœur. Écoute, des fois...
En fait, on fait ça pour vous challenger, pour que vous nous donniez des réponses plus originales.
Voilà, soyez bons.
On sous-traite, en fait. Faites notre boulot.
N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des interfaces et des menus et des idées de top 3 hein, qu'on reprendra pour les prochains épisodes. Et il est l'heure de parler d'un second CRPG, d'un RPG, je sais pas, qu'est-ce que c'est ? Un second jeu dont tu es un expert, avec un
évidemment, à l'émission des experts, on est en plein dans notre zone de confort aujourd'hui. Donc Starfield, c'est une des sorties d'un des jeux les plus attendus de l'année et qui a déjà fait couler énormément d'encre. Donc j'avais dit à la sortie de Baldur 3 que j'avais apprécié ce moment un peu paisible où les gens kiffaient un peu. Starfield, c'était tout le contraire, en fait. Hein, ça s'est écharpé, les fanboys sont montés au créneau. Vraiment, ça a mis en avant le pire de ce que les fanboys peuvent proposer.
La passion.
Mais c'est aussi à la hauteur des attentes que le jeu cristallise. Et je trouve qu'il avait plusieurs objectifs à atteindre selon trois niveaux un petit peu différents. Donc on a le niveau au niveau de Bethesda Game Studio, donc le studio qui a développé le jeu. Et en fait, c'est tout bêtement leur nouvelle licence, leur première nouvelle licence depuis plus d'une vingtaine d'années.
On se rend pas compte, 20 ans, t'imagines.
Parce que ça fait un moment que le studio, ils alternent entre les déclinaisons des franchises Elder Scrolls et Fallout. Et donc, voilà, ça passe de l'un à l'autre. Et là, c'est un petit peu une nouvelle licence, ça fait plaisir. Et concernant Todd Howard, notamment, qui est la figure de proue du studio, donc en termes de com et en termes de main dans le cambouis, quoi.
Ouais.
C'est même son premier projet original. Parce qu'on le rappelle, il a travaillé sur la licence Elder Scrolls depuis l'épisode 2, depuis Daggerfall, mais c'est pas lui qui a créé Elder Scrolls.
Ouais.
Et idem pour Fallout, hein, parce que Fallout, Bethesda a racheté les droits à Interplay en 2007. pour 5,8 millions. C'est quand même donné, je pense, hein. Et donc, c'est pas lui non plus qui a créé la licence Fallout. Donc, Starfield, en quelque sorte, bah, c'est le premier-né de Todd Howard. Même si sa patte en tant que réalisateur, comme il est sur Starfield, on l'avait déjà pu la connaître sur Skyrim et sur Fallout 4. Ouais. Et donc, pour moi, c'est quand même, je trouve, un projet symbolique, au moins à ce niveau-là, et une manière pour Todd Howard aussi de s'émanciper un peu de l'héritage de son studio et pour encore plus poser son empreinte dessus, quoi.
Je trouve ça cool et gratifiant pour lui qu'il y ait eu tant de bruit autour de Starfield, au-delà de l'héritier de Skyrim. C'est que, ben voilà, c'est sa première licence et il doit être très fier de dire, ben au moins...
Je pense qu'il y avait une petite pression et qu'il voulait aussi montrer quelque chose, quoi.
C'est sa nouvelle licence qui fait aussi bouger les lignes, ou pas, on verra.
Alors, en ce qui me concerne, c'est la première, ma première expérience avec un jeu Bethesda. Alors, je vais dire Bethesda pour éviter de dire Bethesda Game Studios, parce que comme
Baldur's Gate 3, Bethesda,
c'est compliqué à dire. À l'époque, je crois que j'avais joué à peine 2 heures à Skyrim, pas plus. Parce que voilà, comme Baldur pour toi, c'était pas forcément ma cam, j'étais pas convaincu que c'était des jeux pour moi. Et donc, j'aurais pas trop de points de comparaison avec le reste de la prod du studio, hein, comme vous pouvez avoir avec des spécialistes sur le sujet, quoi. Mais pour le coup, c'est peut-être un avantage, en fait. Parce que la philosophie du studio, elle semble avoir atteint vraiment son apogée avec Skyrim à l'époque. Et depuis, bah, tout le monde se plaint un petit peu du manque de renouvellement de la formule. Et même avant Skyrim, hein, depuis même Oblivion et Fallout 3, j'ai relu pas mal de tests pour préparer la chronique, bah souvent, depuis cette époque-là, hein, t'as beaucoup de testeurs qui râlent en disant que Bethesda se remet pas en cause, que c'est toujours la même formule qui est développée. Okay. Donc les critiques à ce niveau, ça date pas de Starfield, hein, ça remonte à bien avant. Et pour le coup, moi, j'avais quand même cette sensation un petit peu de découverte. Hein, donc j'ai parté avec un avantage là-dessus, quoi. Alors typiquement... C'est quoi la formule d'un jeu Bethesda? C'est vraiment le triptyque exploration, action, loot. Donc en gros, bah, t'arrives dans une terre inexplorée, tu vas prendre plaisir à découvrir. Fatalement, tu vas tomber sur des ennemis, ça va enclencher des combats. Et à la fin, tu récupères le loot du vainqueur pour te féliciter avec ce que ça implique en termes de rare, de qualité, machin, etc. quoi. Le scénario, lui, là aussi, t'as une formule un peu toute faite avec une mise en scène qui évolue sur... Bah, t'as des plans poitrine sur les persos, les PNJ qui est figé, et tu vas avoir des choix de réponses, toi, qui te seront offertes pour un petit peu apporter là aussi du roleplay à ton expérience, quoi. Niveau écriture, autant j'ai trouvé la trame principale assez sympa, en fait, et qui a su m'intriguer et me donner envie d'avancer, autant que si on parle d'écriture en tant que telle sur, bah, par exemple, les réponses qu'on te propose, je trouve que ça manque carrément de subtilité, parce que dès lors que tu sors des réponses un petit peu classiques attendues de ton héros, dès que tu veux jouer un peu le con, le bourrin ou tout ça, tu tombes vite sur des répliques qui sont, je trouve, assez caricaturales, un petit peu nazes, quoi. Et idem pour les flirts, tu vois, où t'as des options de flirt qui vont apparaître avec certains persos. Et là, ça te sort à chaque fois des putains de pick-up-line, mon gars, de gros lourds de fin de soirée, quoi. Genre, même moi, tu vois, si t'étais intéressé pour flirter avec un perso, je n'osais même pas cliquer dessus tellement que j'assumais pas la réplique, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc en termes de narration, quand même, ça fait un petit peu vieillot, tout ça. Et c'est vrai que, on est un petit peu loin du degré de finition, par exemple, dans Last of Us ou God of War. On va souvent comparer un petit peu là-dessus à ce qui se fait chez Sony.
Et concernant l'écriture, est-ce que t'as des personnages forts qui sont, alors pas des PNJ, mais des gens qui gravitent autour de toi et qui ont une forte caractérisation?
Ouais, t'es quand même accompagné d'une équipe, hein, que donc tu peux à chaque fois amener des gens sur le terrain. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment à toi d'aller creuser un peu le sujet. Si t'as un perso que t'aimes bien, bah, tu le prends avec toi en mission, tu discutes, t'essaies de lui poser des questions. Et les persos, c'est vrai que t'as des persos plutôt attachants, des personnalités assez singulières. J'ai trouvé ça plutôt cool, quoi.
Okay.
Et donc, on va maintenant voir que Starfield, est-ce que ça peut pas être le début d'une tendance? Parce qu'on reparlait de Naughty Dog et Santa Monica, il y a beaucoup de rumeurs qui font état qu'ils bosseraient tous les deux sur des projets de science-fiction. Donc, on va voir si c'est le début d'une nouvelle mode. Alors, je l'ai dit, Starfield a des attentes à différents niveaux, notamment au niveau du RPG. Alors, comme Final Fantasy ou The Witcher, Skyrim, ça fait vraiment partie des projets qui ont su apporter le genre du RPG au grand public.
Oui.
Et depuis ces années-là, on constate que le genre même RPG, il a infusé dans nombre de productions AAA. Et on compte plus aujourd'hui les jeux avec des arbres de compétences, avec la montée de niveau des persos, avec les dialogues à choix multiples. Tu vois, si on cite toujours pas, il y a les habituels suspects, Horizon, God of War, Assassin's Creed, on voit qu'ils ont tous intégré une couche de RPG là-dedans, quoi.
Oui, c'est clair.
Et finalement, on a du RPG partout, mais est-ce qu'on a finalement plus de RPG nulle part? Parce que des studios qui s'étaient brandés comme spécialistes du genre, comme CD Projekt, donc Bethesda Game Studio ou Square Enix, et qui étaient connus pour fournir des grands RPG, bah, ils semblent laisser de plus en plus de côté cette composante. Et toujours pareil, afin d'essayer d'atteindre un public toujours plus large. Certains ont reproché à FF16 de ne pas être assez FF, et d'avoir carrément délaissé son versant RPG. Cyberpunk, certains ont dit que c'était devenu un petit peu du GTA, et donc on a perdu aussi cette essence RPG.
Ouais. Il y a une ville, quoi, faut rejouer à GTA, quand même.
Et même Starfield, hein, j'ai vu des gens qui disaient que c'était trop Bethesda, mais que, comme la formule consacrée de Bethesda, bah, le RPG, finalement, c'était plus la priorité du studio depuis quelques temps, quoi. Mm-hmm. Et finalement, comme le genre même de l'infiltration, on remarque que le RPG, bah, se retrouve un petit peu partout, mais finalement a perdu un peu de ses têtes de gondole qui en faisaient sa spécificité, quoi. Mm-hmm. Donc, on va voir, est-ce que la réalité des chiffres donnera raison à ces studios-là, voir s'ils ont bien fait leur constat et qu'ils vont réussir à toucher un plus large public. C'est peut-être pas gagné, et tu parlais de Baldur's Gate tout à l'heure, c'est peut-être lui le parfait contre-exemple.
On a un bon représentant.
Voilà, qui montre qu'ils s'en sont peut-être trompés, parce que quand tu fais du RPG pur et dur, voire même du JDR super obscur, pointu et tout, ouais, bah ça cartonne, hein, parce que Baldur 3 est en train de cartonner sur PC. Aucun doute qu'il va cartonner aussi sur console.
Donc, c'est peut-être la rareté qui fait la singularité aussi. C'est vrai que là, le RPG, tu l'as dit, ça a infusé dans absolument tous les genres et sous-genres. Hein. Il y a ces caractéristiques du RPG partout. Baldur's Gate, avec sa radicalité, bah, finalement, bah, il se démarque. Mmh. Parce que lui, il est allé à fond dans une direction et il n'a pas tapé dans le ventre mou de « on va mettre un peu de RPG, un peu d'action, un peu de liberté ».
On en parlait entre nous, même Elden Ring aussi, enfin les jeux From Software
sont, bien sûr,
ont connu leur succès de par leur radicalité, bah oui, mais c'est pas donné à tout le monde, hein, de réussir à aller sur ce domaine-là, c'est pas si facile, quoi. Donc Starfield, c'est clairement un action RPG, mais qui a quand même une forte emphase sur l'action, parce que finalement, tu passes ton temps à défouailler des adversaires, hein, qui sont souvent, okay, des pirates de l'espace. Et j'ai même été assez surpris, moi qui voyais ça de l'extérieur, ces jeux, que finalement, bah, le combat, c'était quasiment la seule alternative pour 90% des quêtes que j'ai effectuées.
Okay.
Donc, t'as bien quelques persos que tu peux apaiser grâce à la persuasion, donc par le dialogue, mais parce que j'avais choisi cette compétence-là au départ pour mon perso. Alors, j'ai même pu apaiser le boss de fin comme ça. Hein.
Oh.
Mais finalement, je trouve que t'es loin d'avoir 50 options à ta disposition pour régler des problèmes autrement que par la baston, quoi. Et ça, c'est vrai que je m'étais fait une image qui n'était pas forcément la réalité là-dessus.
Donc,
quoi,
finalement, en termes de roleplay, tu peux jouer ou un bourrin ou tu peux discuter mais rapide, quoi. T'as pas un éventail.
Ouais, mais même la discussion, je mettrais pas ça au même niveau que le côté bourrin. C'est que il y a de l'action, c'est un jeu d'action et tu vas gérer ça par l'action la majorité du temps. Et certains, ouais, moments assez rares finalement, tu peux avoir ce côté discussion et régler ça par le dialogue, quoi.
Tu peux pas être un grand négociateur. Genre comment tu sais le tu peux pas faire une run clean.
Ouais, mais en fait c'est pas toi qui choisis, en fait c'est que le jeu te dit là tu peux utiliser ta compétence persuasion.
D'accord.
Et donc ça va être saupoudré à certains moments, mais c'est pas toi qui va pas pouvoir prendre l'initiative, en fait. Et donc ce qui est cool, c'est que le gameplay justement il va pouvoir s'infléchir. Bah tu vois, si tu augmentes tes compétences pour être plus réactif, tu peux, je sais pas, avoir une glissade pour quand, okay, tu cours, tu peux. Donc tu peux infléchir un tout petit peu là-dessus. Tu peux aussi utiliser des capacités d'infiltration pour devenir invisible ou quoi. Mais à chaque fois, ça va être des nuances d'un même gameplay. C'est pas, voilà, quand tu fais un profil type action, ça va pas devenir Vanquish, le jeu. Et idem, quand tu privilégies l'infiltration, ça sera jamais du Splinter Cell. C'est, okay, juste le même gameplay de base qui sera légèrement teinté d'un élément ou l'autre, pas plus, quoi.
C'est pas un immersive sim non plus. Là, ça me fait penser à ce que tu dis, à Deus Ex. On en est pas là. On n'est pas...
Non, non, non. Et c'est vrai que c'est un petit peu aussi la déception qu'il y avait pu avoir sur Cyberpunk, où les gens s'attendaient presque à un immersive sim. Alors finalement, voilà, c'est plus on te donne 2-3 outils et t'auras toujours moyen de prendre une initiative ou l'autre assez facilement, quoi. T'as, ouais, pas des branches de scénario, okay, qui vont se développer.
Après Cyberpunk, par exemple, tu peux jouer très très hacking et tu peux quasiment, tu vois, ne pas taper les gens, ne faire que t'infiltrer. T'as quand même, tu vois, une branche qui peut avoir une certaine couleur et tu peux avoir une autre partie, une autre run où tu vas pouvoir peut-être être beaucoup, beaucoup plus bourrin. Ouais,
mais c'est souvent des moyens différents pour parvenir à la même fin, tu vois. C'est, d'accord, pas, okay, des branches entières, d'accord, que tu vas te dire je suis le hacker de la ville et ça va développer carrément des scénarios dédiés ou quoi.
D'accord.
Donc, ce qui est valorisé vraiment dans Starfield, c'est la sensation d'exploration. Et donc, c'est vraiment cette portion de l'univers que tu vas explorer, et lui-même univers composé de plusieurs systèmes solaires, donc on sait qu'il y a plus de 1000 planètes, tout ça, quoi. Et je trouve que c'est vraiment kiffant, en fait. Tu passes d'une planète à l'autre, que ce soit pour poursuivre ta quête, ou juste pour visiter, collecter des ressources, ou même, si tu veux, répertorier la faune et la flore.
Okay.
Par contre, le jeu, il est quand même découpé d'une telle façon que t'as plus l'impression de prendre le métro pour arriver à un arrêt à chaque fois que prendre la grande exploration, quoi. Parce que donc, le jeu, on l'a vu, il est quand même... T'as beaucoup de temps de chargement, c'est jamais un monde ouvert fluide, c'est-à-dire que tu prends pas ton vaisseau, tu décolles de manière seamless pour aller dans l'espace et te rendre à la planète.
Okay.
C'est qu'à chaque fois, le jeu, vraiment, il va encourager le voyage rapide, parce que c'est la meilleure manière de faire les choses, quoi. On a vu une streameuse qui a voulu rejoindre une planète d'un point A à un point B, elle a mis 7 heures pour faire le trajet, et quand elle est arrivée, la planète en question, il y a eu un bug, elle était pas accessible, elle pouvait pas se déplacer dessus, donc le jeu n'est pas pensé pour que tu l'explores en mode simu-exploration dans l'espace, je prends mon vaisseau et je me balade, quoi.
D'accord. Moi, j'avais une question justement sur l'exploration. Est-ce que ces voyages rapides, c'est de la téléportation? C'est-à-dire que tu es dans la diégèse du jeu et le personnage, il a une montre qui lui permet de se téléporter.
En fait, non, c'est que ça simule juste que tu prends ton vaisseau, tu te rends là-bas et voilà, quoi.
Ouais. Mais moi, je trouve ça super bizarre parce que justement, le jeu se passe, je crois, 300 ans après l'ère actuelle. Tu vois, on est quasiment dans du contemporain pour de la SF.
Ouais,
on est...
je crois que c'est 200 ans, mais 200 c'est, ans. Voilà, c'est un peu.
On est vraiment pas loin. Et je trouve qu'ils aient mis l'emphase autant sur le voyage avec le vaisseau, le fait que tu peux te le construire et tout, et que finalement, ben, tu vas pas tant voyager que ça. Et surtout, que la logique du voyage soit pas au cœur du jeu, je capte pas. Tu vois, 300 ans, on est quasiment à l'ère actuelle. Est-ce que dans 200 ou 300 ans, on sera réellement en téléportation? Donc aujourd'hui, si tu imagines et tu envisages le voyage dans l'espace, aujourd'hui, la notion de véhicule, alors c'est pas parce que j'aime bien conduire des trucs, mais la notion de véhicule, elle est fondamentale. C'est-à-dire que l'un des enjeux, ça va être décoller de la planète Terre, atterrir. Une fois sur une planète, tu vas te, j'imagine, on va se déplacer dans un véhicule. Là, de ce que j'ai vu, et c'est ma question, tu vas me le confirmer, t'as l'air de te balader essentiellement à pied. Moi, je trouve ça illogique au possible que, dans 200 ou 300 ans, ouais, non, mais normal. En fait, tu vas sur une planète inhabitée, inconnue, le premier truc que tu fais, c'est une rando. Enfin, je pense que mettre un pied au sol, hormis Armstrong, sur la Lune, mais c'est le dernier truc que tu vas faire. L'essentiel du voyage, l'essentiel de l'exploration, et là où le jeu, moi, je l'aurais attendu si je l'avais fait, c'était, mais qu'est-ce que tu vas me proposer en termes de véhicule et d'exploration?
Ouais, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de véhicule terrestre, on va dire, pour explorer les planètes que tu visites, et c'est un peu la question que tout le monde se pose. Alors, Bethesda dit qu'ils avaient essayé, mais que, pour le bien du joueur, ils ont privilégié l'exploration à pied.
Okay.
Et c'est vrai que quand t'arrives sur une planète, t'as forcément ton point d'intérêt là où tu dois aller, mais t'as souvent des trucs inconnus à visiter.
Okay.
Et souvent, moi, je me contentais de me rendre à mon point d'intérêt parce que aller voir tous ces points-là particuliers, ça prend 1000 plombes, en fait, de se déplacer à pied. Alors, des fois, tu cours avec la gravité moins de la planète, tu peux faire des bonds gigantesques et tout, mais t'as clairement, c'est un frein à l'exploration, en fait, le fait qu'on propose pas de véhicules. Je pense qu'il y avait des contraintes techniques, tu vois, ou dans des reliefs aussi escarpés. On se rappelle de la moto dans Death Stranding, faut quand même prendre le coup.
Génial. Je veux pas avoir de jugement hâtif parce que j'ai absolument pas fait Starfield, j'y ai pas joué, mais le fait qu'ils aient ces contraintes, ok, pas de souci, je comprends, mais qu'ils les aient pas intégrées justement au scénario, à la diégèse, à la façon dont on va découvrir le jeu, ça, moi, ça me dérange, parce que par exemple dans Mass Effect, qui franchement je trouve ça comparable en termes d'ambiance, d'envergure, de RPG, tout ce que tu veux, Mass Effect, dès le début, il t'explique que il y a des grands téléporteurs qui sont en orbite, et que tu, avec ton petit vaisseau, tu prends le téléporteur et tu vas te téléporter, et ils vont, tu vois, comme ça, tuer dans l'œuf la promesse du voyage intersidéral, en se disant, mais non, mais on sait se téléporter. Quand tu sais se téléporter, tu vas arrêter d'inventer des voitures.
Ouais. C'est juste, la téléportation, en fait, j'imaginais que tu parlais au sens Star Trek, genre où tu disparais, que tu apparais quelque part, mais c'est justifié dans le jeu, ce côté, la technologie qui a permis d'avoir des moteurs qui permettent de sauter dans les lumières et tout, hein. Donc, c'est
d'accord.
Clairement mis en avant.
Donc,
et
certes.
Ton vaisseau fait des bonds, en fait, ils appellent ça des jumps, quoi, pour passer d'un moment à l'autre, un peu d'accord. À la Star Wars, tu vois, quand tu fais la vitesse lumière.
Ouais, quoi. Ok. Bon, certes, mais ce que je dis, je pense que ça peut s'expliquer, enfin, j'aurais aimé, en tout cas, que ça l'explique, justement, avec ton personnage qui a pattes. Qu'il est justement une montre ou une combi qui fait que, non, mais ça sert à rien que j'ai un véhicule. On a la technologie pour justement se balader à pied et ne faire que se téléporter. Et de ce que tu dis et de ce que j'ai cru comprendre, en fait, tu passes ton temps justement à faire ces simulations de temps ou ces voyages pour juste dire, je me téléporte d'un point A à un point B, d'un point B à point C.
Mais c'est purement un choix de game design, de praticité. C'est-à-dire que tu peux même te téléporter quand t'es, à la surface de la planète, t'as pas besoin d'être dans ton vaisseau. C'est que sur la surface de ta planète, tu regardes tes objectifs, tu vises ton objectif sur une autre planète, tu lances la téléportation à ce moment.
Ouais, mais ça n'est qu'une option de qualité de vie. C'est pas,
Moi, ça m'aurait saoulé que ce soit plus
bien
contraignant,
sûr,
parce
moi,
que ça rend ça pratique, du coup. Mais c'est pour ça que je te parlais de côté un peu le métro, en fait.
Ouais.
C'est que c'est pas un big deal, en fait, de voyager dans l'espace. C'est juste, tiens, je me téléporte là, c'est ma nouvelle
mission. Moi, je veux pas la retirer.
Un moment, un autre,
je veux pas retirer la qualité d'option de vie. Je veux juste qu'on me fasse y croire, en fait. Voilà.
Oui, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont regretté de pas avoir ces phases de décollage ou d'atterrissage. En fait, c'est que t'as trois statuts. C'est que t'es sur ta planète où t'as ton vaisseau qui est posé. Tu te téléportes, t'arrives en orbite de la planète à laquelle tu vas. Et t'as un chargement pour atterrir, en fait. Donc t'as pas ce côté, voilà, toutes les transitions, en fait, sont supprimées, quoi.
D'accord.
Et une fois que t'es dans l'espace, en fait, t'as pas d'exploration dans l'espace avec ton vaisseau. T'as juste
combat.
Des fois des dogfights, qui sont pas forcément super excitants, mais t'as pas de côté exploration dans l'espace, quoi.
Tu t'es servi, toi, de ton vaisseau que t'as toi-même crafté, construit?
Puisque je n'ai même pas crafté de vaisseau.
Non mais c'est, en fait tu vois ça va avec cette, ce paradoxe, ce truc chelou, c'est que je comprends pas, c'est, ils ont mis l'emphase, ils ont pas expliqué des choses, là ils te proposent un truc complètement dingue, t'as l'impression d'être dans un simulateur de construction de airship quoi, et t'as fait le jeu sans t'en servir.
Ça c'est le cas typique ça, de ces jeux qui te rajoutent des briques de gameplay en fait pour dire bah regarde dans la com tu peux faire des avant-postes, tu peux créer un avant-poste, c'est-à-dire tu vas faire une base sur une planète et
tout. Ah oui, il y a ça aussi.
Tu peux créer des vaisseaux, mais jamais le scénario va te demander de le faire, ça sera jamais obligatoire, et souvent dans un jeu quand t'as une feature on te la fait tester au moins une fois.
Normal.
Donc voilà, ben vas-y, construis ton vaisseau à partir de 5 briques, voilà c'est ton premier vaisseau. Là non, c'est que dès le début on te file un vaisseau et jusqu'à la toute dernière mission ce vaisseau pourra faire le taf sans problème.
Et c'est le tien.
Et c'est celui qu'on t'a donné.
Mais c'est ce que t'as fait, toi.
Pas construit.
Toi.
Ah oui, oui. Et c'est vrai qu'on en parlait, mais je sais pas si c'est dans notre podcast Assassin, donc qui est peut-être pas encore sorti. C'est que vous avez, en fait, c'est que t'as des briques de gameplay qu'on te rajoute, mais vu qu'on te, qu'elles sont jamais essentielles, tu peux complètement passer à côté. Alors moi, ça m'a arrangé parce que faire des vaisseaux ou des bases, ça m'aurait pas du tout excité. Mm-hmm. Mais au moins, fais-moi tester le truc, fais-moi goûter le truc dans le scénario. Là, c'est des pans que j'ai complètement mis de côté. Et pour le coup, ben voilà, qui servent à rien. Alors, évidemment, il y a des mecs qui vont kiffer, ça va être leur life, ils vont passer 150 heures à se faire des vaisseaux et des bases. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait l'effort, au moins, de te faire essayer le truc.
De l'intégrer. Autre, et est-ce que ça leur donne un avantage? Est-ce que ça te donne un avantage de faire un poste avancé? Est-ce que ça te donne un avantage d'avoir un destroyer qui fait 3 km de long? Je suis même pas sûr.
Ça te facilite la vie. C'est-à-dire que tu peux construire un vaisseau qui a plus de place dans ta soute.
Okay.
Donc, tu pourras prendre plus de matériaux, tout ça. Qui sera plus rapide, plus puissant, qui pourra avoir des meilleurs lasers. Donc...
Rapide, je m'en fiche, je me téléporte.
Oui, mais bon, après, tu peux avoir quand même une vitesse dans les dogfights, ce genre de choses. Okay. Et pareil, c'est que les bases, en fait, ça peut être pour faire plus facilement du farm de ressources. Mais en fait, les ressources servent à construire des vaisseaux, qui te servent à construire des avant-postes. Enfin, ça entretient sa propre boucle.
Ça auto-alimente.
En fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est collecte de ressources et tout, c'est un pan que j'ai complètement aussi pas du tout laissé. Enfin,
d'accord.
Voilà, donc c'est juste un moment à la fin où on va t'imposer d'avoir un vaisseau qui permet de se déplacer encore plus loin. Mais à ce moment-là, tu l'achètes, en fait. Parce que t'as toute ta thune de début du jeu, qui te permet d'acheter ce vaisseau-là.
D'accord.
Donc ouais, c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu étrange, quoi. Donc je disais, t'as cette espèce d'univers qui est, enfin, c'est pas un monde ouvert, c'est un univers ouvert, en fait. C'est gigantesque. Mais au final, qui est tellement, tellement surdécoupé que tu sens pas cette unicité, en fait. Là où, tu vois, ça m'a toujours fait marrer parce que je trouve, par exemple, qu'un Zelda, Breath of the Wild, par exemple, ou même Game of Thrones, la série, c'est, le monde dans lequel ça se passe, t'as l'impression que c'est un petit monde, en fait. C'est presque, je sais pas, comme le Royaume-Uni, c'est un pays. Tu vois, Zelda, c'est pas le monde que tu vois, c'est un espèce d'endroit très localisé, quoi.
Ouais. Mais Game of Thrones ou même Final Fantasy XVI, très récemment, c'est un continent.
Ouais.
Et il se passe des choses par-delà les eaux, mais
c'est même pas gigantesque, en fait.
Ouais, tu te dis, il se passe que ça.
Mais pourtant, je trouve que tu ressens plus cette sensation de monde que dans un Starfield, justement, parce que c'est une question de découpage, quoi.
Ouais. Il y a une question de voyage aussi, je pense, qui est liée à ce ressenti-là, quoi.
Et après, justement, tout ce qui va conditionner ça, c'est en fait l'immersion. C'est, à mon sens, le facteur clé quand tu joues à Starfield, c'est ta faculté d'immersion. Et selon ton profil, le jeu pourra te plaire ou alors tu vas complètement passer au travers. Tu vois, dans Cyberpunk, le jeu, il met tout en scène pour t'immerger. Donc, quand tout fonctionne, évidemment, quand il n'y a pas des bugs ou quoi, bien sûr, c'est-à-dire que c'est beau. Ton interface, elle est intégrée de manière digétique. L'action, les doublages des persos sont super bien faits. Tu vois, les animations sont travaillées de ouf. Dans Starfield, c'est un peu comme un goûter d'anniversaire quand t'as 8 ans. C'est-à-dire, tu prends ton chapeau et tu fais, vas-y, on disait que je suis un magicien. Et tous tes potes, ils vont faire, ok, t'es bon, c'est un magicien. En fait, tu vois, ils vont tous y croire et tous jouer le jeu.
Okay.
Alors que t'as pas une tête de magicien et il y a peu d'efforts qui sont déployés pour que tu aies l'air d'un magicien.
Okay.
Mais en fait, c'est que tu acceptes volontairement de passer outre tous les éléments bancals que tu vois pour t'immerger.
D'accord.
Et Starfield, je trouve, il y a un peu de ça. C'est qu'il faut vraiment être capable de faire abstraction, de voir tous les défauts, tous les trucs qui vont pas pour te laisser aller et pour jouer un petit peu le jeu, quoi. Donc là-dessus, à chacun, je pense qu'il y a des gens qui seront complètement hermétiques là-dessus, quoi. Et enfin, un dernier point de vue, c'est au niveau des enjeux pour Microsoft en tant que tel. Donc là-dessus, les enjeux sont super importants, parce qu'on le rappelle, Microsoft a racheté Bethesda en 2020 pour la somme de 8 milliards environ, et on se doute bien que le studio de Todd Howard, c'était un petit peu le joyau de la couronne qui était quand même au cœur de ce deal-là, quoi.
Ouais, oui.
Et si Phil Spencer, il a louvoyé un petit peu au début à propos du statut d'exclusivité potentielle des jeux Bethesda, on imagine que l'arbitrage autour de Starfield, hein, ça a pas fait long feu, il a décidé tout de suite, quoi. Parce que oui, depuis plusieurs années, maintenant, Microsoft, il est à la recherche de son gros jeu référence. Celui qui sera capable de faire vendre des machines, comme peut le faire un Last of Us, un God of War ou un Spider-Man chez Sony. À l'époque, il avait bien la licence Halo ou Gears of War qui jouait ce rôle de porte-étendard. Mais, je pense que tu seras d'accord, avec le temps, le lustre autour de ces deux licences, c'est un petit peu érodé, quoi.
Oui.
Alors, est-ce que Starfield est cet ambassadeur? J'ai l'impression que oui. Et finalement, presque indifféremment de ce qu'on pense de la qualité du jeu, c'est qu'il a su générer cet emballement médiatique. Il a su créer ces discussions sur ces gens qu'il défendait, ces gens qu'il trouvait nuls. Donc là-dessus, je pense que la mission est accomplie. Mm-hmm. Il lui restera quand même, je trouve, deux missions à remplir. C'est, il faudra qu'il fasse exploser les abonnements Game Pass. Parce que Tunic ou Affair Rush, j'adore, hein, c'est pas la question, mais la promesse du Game Pass, te dire je joue au plus gros AAA first party, bah c'est avec Starfield vraiment que pour la première fois je trouve elle prend sens quoi.
Bien sûr.
Et donc maintenant que en plus Microsoft a laissé tomber la formule Live Gold, Xbox Live Gold, et que ça se transfère en Xbox Game Pass, là vraiment il faut que la prochaine mise à jour elle soit voilà, qu'il y ait une différence en termes d'abonnés. Parce que si tu as ce rebranding des abonnés live plus Starfield, si t'as pas une explosion des abonnements, c'est que ça marchera jamais quoi.
Ouais, c'est clair.
Le deuxième objectif, c'est que le jeu devra au moins apparaître dans les nommés au GOTY, au Game Awards en fin d'année. On pense qu'on veut de la cérémonie ou de Jeff Keighley, c'est pas la question, mais il a réussi à faire de sa cérémonie le baromètre de l'industrie, qui est quand même considéré comme l'équivalent des Oscars, on va pas se mentir. Donc vu le pédigré ouf de l'année 2023. Personne n'en voudra Starfield s'il n'est pas GOTY. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Clairement, les candidats sont forts. Mais il faut au moins qu'il apparaisse dans les discussions pour justifier son statut, quoi.
Je suis d'accord, mais compliqué quand même. Là, il y a vraiment compliqué. Diablo 4, Zelda, Baldur. Enfin,
après, à voir aussi dans quelle mesure tu n'as pas un peu, tu vois, le côté chacun doit avoir son représentant, tu vois.
Ouais.
Et là,
il serait clairement le représentant de Microsoft.
Il faut qu'il soit, quoi. Sinon, ça sera vraiment vécu comme un camouflé, je pense. Finalement, Starfield, c'est un jeu qui semble se nourrir de paradoxes. Alors, il en joue volontairement, lui, dans le jeu, dans son scénario, par exemple, quand il te demande un petit peu de te placer entre science et religion, donc avec ce paradoxe-là. Parfois, il en joue de manière plus involontaire, quand il va lorgner vers trop de réalisme pour certains aspects. Il y a une trentaine de types de munitions différentes. C'est un truc de fou. Des fois, t'as ramassé et t'as pas de munitions pour ton arme, alors que ton inventaire de munitions, il est blindé. T'as 1000 pathologies ou objets de soins aussi. Tu vas avoir des objets de soins qui soignent tel truc. Tu peux avoir, tu vas avoir un truc respiratoire, tu peux avoir une fracture, tu peux avoir une insolation. Enfin, c'est un délire de ouf. Donc là-dessus, ça pousse un réalisme presque contraignant. Alors que d'à côté, on te demande de piloter un vaisseau dans l'espace de manière complètement arcade, hein, genre la Rogue Squadron et tout, et sans avoir à gérer décollage, atterrissage, des histoires de jauge et tout. Donc là-dessus aussi, paradoxe, quoi. Starfield, il va se vouloir être un parangon de l'exploration, mais on l'a dit, finalement, il propose pas de véhicule à la surface des planètes. Et si bien que moi, bah, finalement, l'exploration, je faisais un petit peu le strict minimum, quoi. Starfield, c'est plus qu'un monde ouvert, j'ai dit, c'est bien cette espèce de galaxie ouverte, alors qu'au final, il apparaît très fragmenté. Et enfin, il met en scène le futur de l'humanité, alors qu'il semble quand même un petit peu bloqué dans le passé en ce qui concerne sa mise en scène ou la modélisation des visages des PNJ, quoi. Mmh. Et finalement, bah, un peu comme tout le monde, hein, c'est que je vais citer plein de défauts à Starfield. Et en fait, j'ai trouvé le jeu assez bon. Et enfin, je l'ai trouvé assez entraînant. Et alors qu'au départ, moi, je l'ai juste lancé pour voir. J'avais aucun objectif de faire le Starfield. Et en fait, j'ai plié le jeu en une semaine parce que j'ai quand même trouvé mon plaisir, quoi.
Alors que de ce que tu m'as dit, le prologue est pas le meilleur.
Les deux premières heures sont infernales, je pense.
Mais ça t'a pas freiné, quoi. Alors que t'es plutôt sensible à ça.
Oui. Et tu vois, je pensais aussi être très tatillon sur les questions d'immersion. Tu vois, moi, le lip sync décalé, ça me rend ouf. Là, laisse tomber, en français, c'est le pire lip sync que t'as jamais vu, donc je joue en VO. Et pourtant, non, le jeu, alors parce que sa boucle de gameplay est efficace, parce que les mecs, ils savent faire leur formule, j'ai de suite tombé dedans, quoi. Mm-hmm. Et alors, tu vois, je le placerai quand même pas dans mon top de l'année, hein, mais c'est un des très bons jeux que j'aurais fait cette année-là. Tu vois, côté, par exemple, d'un Jedi Survivor, de Star Wars, ou bien du Resident Evil 4 Remake.
Un bon moment.
Voilà. Et en tout cas, il a quand même trouvé une singularité qui est plutôt rigolote, hein, c'est dans son New Game Plus, mais là-dessus, je n'en dirai pas plus, pour vous laisser la surprise.
Trop bien.
Mais là, je trouve que ça lui donne vraiment aussi une identité plutôt cool et tu termines un petit peu sur une bonne note, quoi.
Ouais. Alors je vais pas te demander de révéler ce New Game Plus, mais concernant le scénario de la quête principale, tu m'as dit que c'était quelque chose qui t'avait un petit peu entraîné, que elle avait été intéressante, il y avait du mystère.
Ouais, en fait, après voilà, c'est ce côté un peu, ça apporte un peu de mysticisme dans la science. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et voilà, c'est une quête en fait d'artefacts un peu mystérieux, donc tu sais pas s'ils ont été créés par une civilisation avancée, par des extraterrestres, ou si c'est juste des reliquats, tu vois.
On est dans le délire Assassin's Creed 2 où tu vas essayer de découvrir cette fameuse vidéo de la vérité en découvrant, tu sais, des artefacts. Tu vas petit à petit, en fait, être à la quête du MacGuffin, enfin, ou de plusieurs.
Ouais. Et puis, voilà, t'auras quelques petits retournements de situation.
Toi, ça t'a pris, ça.
Ouais. C'est vrai que, j'ai dit, l'écriture en elle-même est loin d'être incroyable, mais je trouve que la quête principale fait le taf. Et surtout, t'as évidemment un masse de quêtes annexes, secondaires et tout, qui sont tout aussi travaillées, voire plus. Donc là-dessus, c'est vraiment le jeu que tu pourras y passer des heures et des heures, quoi.
Moi, j'avais une question, c'est ces 1000 planètes, tu l'as rapidement évoqué, tu l'as senti, ça sert à quelque chose, ou est-ce que c'est comme, bah, ces fameuses possibilités de faire ton vaisseau, on est encore sur de la futures marketing pour dire que ça existe. Oui, tu peux faire ton vaisseau. Oui, il y a 1000 planètes, mais presque à quoi bon? Ça fait quand même beaucoup de ressources pour quelque ouais. chose qui sert pas grand chose.
Après, t'as évidemment de la génération aléatoire qui joue et tout, mais honnêtement, si j'ai vu 30 planètes dans mon run, c'est le bout du monde. Donc, limite 100 planètes et qui vraiment auraient chacun leur singularité, travailler un level design dédié.
Même 20? Est-ce que si t'avais eu 20 planètes, mais 20 avec, tu vois, un engagement à l'exploration, là, sur les 30 planètes, il y en a peut-être 10 que t'as foulé ou de 20 pas, tu t'es TP comme Goku, quoi.
Oui, puis il y en a, c'est la Lune, quoi. C'est, il y a rien à morne pleine, quoi. Est-ce qu'il okay. se comprend, hein, dans l'espace, mais ouais, clairement, j'aurais préféré 100 planètes ou 50 planètes plus travaillées plutôt que ces 1000 planètes, enfin. Qui va visiter 1000 planètes? Alors, t'as forcément un mec qui va faire une vidéo YouTube, j'ai visité les 1000 planètes avec un long play de 12 heures. Mais voilà, c'est vraiment l'argument marketing massu. C'est, enfin, il y a beaucoup de tests, hein, qui parlaient de quantité versus qualité. Je pense qu'on, c'est un peu dur parce que la qualité est quand même là, mais c'est un petit peu l'idée aussi, quoi.
Est-ce qu'ils se sont pas ratés sur le partage d'expérience entre les joueurs? Tu vois, dans Baldur 3, je parlais tout à l'heure que chaque run allait être différente, chacun, mais aussi entre deux joueurs. Est-ce que, tu vois, ces 1000 planètes, c'était pas, l'espoir de, bah, deux joueurs qui vont discuter, ils vont dire « Ah, moi, je suis tombé sur une planète avec telle faune, telle flore. » Et finalement, peut-être qu'ils ont constaté, in fine, que ça fonctionnait pas et que t'avais des espèces de biomes avec tout le temps les... Est-ce que tu pourrais, non, toi, discuter ouais. avec des gens en disant « Ah ouais, moi, j'ai eu ça, moi, j'ai eu ça. »
T'as quand même une différence que, tu vois, j'ai maté beaucoup de vidéos, beaucoup de tests où j'ai vu des environnements que j'avais pas vu du tout, qui étaient méga beaux et tout. J'aurais « Waouh, c'est super canon, ce truc. » Moi, j'ai pas vu du tout des biomes comme ça, quoi. Ouais. Mais l'expérience entre deux joueurs restera fondamentalement la même, au sens où le côté RPG est très, très light. Ouais. L'histoire t'amènera à la même conclusion. T'auras à un moment des choix à faire, des variations, mais ça sera plus se privilégier un camp par rapport à un autre, et qui va engendrer une petite variation précise, mais jamais des variations en termes global, en termes d'histoire et tout. Ouais.
Finalement, les différences restent assez artificielles. C'est une planète d'une couleur et d'une autre, et que t'as pas vraiment une différence d'expérience.
Si, entre... t'as des planètes qui vont être vraiment vides, rocheuses et tout, t'as une autre qui va être plus ouais. luxuriante et tout,
bien
mais
sûr.
Pas en termes d'événements. Tu vois, c'est voilà, pas les événements aléatoires de Red Dead où tu vas voir genre... Après, des fois, t'es sur une planète, tu te penses seul au monde, et tu vois qu'il y a un vaisseau qui passe au-dessus de toi, qui se pose... Là, t'as ce côté un petit peu qu'est-ce que
sympa.
C'est, qui c'est et tout.
Ouais.
Mais on n'est pas du tout dans un jeu Rockstar où tu vas avoir des événements générés à la volée là-dessus, quoi.
Ouais. Donc, quand je dis artificiel, c'est au premier sens du terme, dans le sens où tu vas avoir une planète différente d'une autre et que tu vas pouvoir partager ça avec quelqu'un, mais tu vas jamais pouvoir discuter avec un autre joueur et tu vas tomber des nues en disant « Mais non, il t'est arrivé ça, c'est un truc de ouf. »
Non.
C'est, tu vas pouvoir dire « Ma planète était de telle couleur, ceci ou cela. » Artificiel, pas méchamment, tu vois, premier sens du terme.
On n'est pas du tout là-dessus, ouais.
Ok. Donc, un jeu finalement avec des défauts, mais un jeu que tu as apprécié faire et au final, bah, est-ce que c'est pas l'essentiel?
Carrément, hein, carrément.
T'as passé un bon moment. N'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous avez pensé de Baldur's Gate 3 et de Starfield, deux jeux, ben, clairement, alors c'est pas les deux jeux de notre rentrée, nous les deux jeux de la rentrée, on en a parlé la semaine dernière dans le Red Alert précédent, Chant of Sinnar et Under the Waves, c'est nos deux coups de cœur, mais bon, on pouvait pas passer à côté aussi de ces deux gros mastodons de la rentrée.
Ouais, puis comme on dit, faut sortir aussi de sa zone de confort, ouais. Allez, on voit un peu ce qui se fait ailleurs, quoi.
Carrément. Merci à tous pour votre soutien. On voit les commentaires, les notes. N'hésitez pas, les notes sur les plateformes d'écoute de podcast, ça aide vraiment le site. Et ben voilà, si vous voulez aider Third dans son ensemble, ben voilà, vous pouvez nous écouter, mais vous pouvez aussi nous lire et ça aide.
C'est vrai, parce que Third Edition, c'est avant tout une maison d'édition dédiée à la pop culture, donc jeux vidéo, mais aussi ciné, série, manga, animation. On a plus de 150 bouquins qui sont sortis, donc vous trouvez forcément votre bonheur. Si vous avez la vidéo, vous avez vu qu'on a des livres qui sont même adaptés au sujet du jour, hein, que ce soit Skyrim, Baldur's Gate ou Fallout. Donc il y a de quoi faire, que ce soit en librairie ou sur notre site internet.
Et bon, ça c'est pour le versant livre et podcast. La semaine prochaine dans Red Alert, Nico, qu'est-ce que tu vas nous raconter?
Alors je pense que ça va être exceptionnel.
C'est vrai, exceptionnel.
Mais je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas encore.
T'as rien relancé là, si?
Non. J'ai très envie de faire Under the Wave suite à ta chronique, donc je pense que je vais m'y mettre ce week-end.
Tu refais une chronique Under the Wave.
Ouais. Donc mon prochain gros jeu, je pense, ça sera le DLC de Cyberpunk. Voilà, je suis devenu un vrai PC,
ah
PC
oui.
Ethos.
Expert
PC. Mais pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore.
Ok. Bah donc une chronique mystère et pour ma part, ça sera Sea of Stars. C'est bon, je l'aurai fini.
Ça y est.
Je pense.
Et il me tarde.
Ça sera plutôt, en tout cas, à mon avis, plutôt cool. Plutôt, j'ai plutôt aimé. Mais voilà, en tout cas, merci encore à tous et à la semaine prochaine.
Bye bye.